Mémorable. Cette semaine, face à face, Maurice Clavel, Philippe Solers, en 1976, par Jacques Pogam. Troisième d'une série de cinq entretiens, portant aujourd'hui sur la question du renouveau de la spiritualité.
Philippe Solers, hier, à la fin de l'émission, Maurice Clavel mettait en cause la possibilité de toute philosophie, de toute métaphysique. Vous n'aviez pratiquement pas eu le temps de répondre.
Non, mais je l'accusais même d'être l'héritier explicite d'une grande tradition philosophique pour interpréter un événement en mai 68 qui, selon moi, l'a cassé toute. C'est bien ça, n'est-ce pas?
Voilà. Alors, je dirais que c'est pas vrai, et je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Je disais, aucune société ne peut se passer de philosophie, et il y a toujours de la philosophie. Et je pense que mai 68 a manifesté, comme retour du refoulé, quelque chose qui, en effet, a été la crise de la philosophie, après le marxisme et le freudisme, et après, disons, Hegel. Ça a manifesté cette crise de la philosophie, car le XXe siècle, c'est pour moi, comme philosophie, la transformation même de l'expérience philosophique en expérience pratique. Et une pratique laquelle? Une pratique vivante, une pratique concrète, qui est celle de tout l'art moderne. Je vais essayer de m'expliquer par là. Quand nous disons que Marx et Freud ont été caricaturés et utilisés contre le mouvement de révolte de 68, vous avez donné des exemples, qui est par exemple celui de ce livre de Mendel, freudien, conformiste, freudien d'appareil. Et puis, l'appareil marxiste s'est lui aussi déchaîné contre mai 68. Je dis
l'influence. L'appareil au singulier
l'appareil, les appareils. Les appareils.
Et comment savez-vous que vous n'êtes pas un appareil de plus?
Voilà, justement parce que je suis seul. Donc,
bravo.
Bon. Alors, je voulais dire que le marxisme, la pensée de Freud, la pensée de Marx, l'interprétation matérialiste historique de l'histoire, l'interprétation de l'inconscient, ce sont des choses qui ont irrigué la pensée du XXe siècle, pas seulement dans la représentation étatique, pas seulement dans la représentation d'appareils, et pas seulement dans la représentation de société, de gens qui s'installent pour en faire quelque chose qui leur rapporte une position sociale. C'est quelque chose qui a irrigué des milliers et des milliers d'individus de pensées solitaires, parfois, qui en ont tiré quelque chose de tout à fait original. Vous disiez, le freudo-marxisme est mort, est balayé, nous sommes dans le retour d'autre chose qui va foutre en l'air toute la métaphysique, toute la philosophie.
Qui est en train de foutre en l'air même, je vais plus loin.
Que ça foute en l'air un certain exercice, soi-disant désintéressé de la philosophie, que ça foute en l'air une certaine utilisation pour les appareils ou pour les sociétés académique de la philosophie, oui. Mais ça ne va pas foutre en l'air ce qui est passé de cette rupture du XIXe siècle dans des pratiques, je m'explique sur cette histoire d'art moderne, dans des pratiques extraordinairement vivantes et diversifiées, dont je dis, dont j'affirme, qu'en mai 68, elles ont porté les revendications vivantes des masses, qu'elles les ont portées à travers des expériences très importantes qui ont été justement pourchassées et contestées et critiquées par les appareils et les pouvoirs totalitaires. Le formalisme, le futurisme, le surréalisme, le situationnisme qui en est la forme plus récente, sont des mouvements qu'on décide être marginaux, qu'on décide être des mouvements soit d'esthètes ou d'aberrants dégénérés, mais qui ont marqué toute la pensée européenne dans son exil à l'intérieur d'elle-même, dans son drame, d'une façon très profonde. Et je dis qu'il y a eu là des événements qu'on nous a appris à tenir pour négligeables, pour secondaires, pour l'affaire de petits groupes, de petites sectes, mais qui ont été extraordinairement vivants et qui ont influencé profondément toute la jeunesse moderne.
Je ne le conteste pas, je ne conteste pas le corps de ce que vous venez de dire, mais n'oubliez pas que le corps de ce que vous venez de dire est rattaché à une position catégorique. Aucune société ne peut se passer de philosophe, et la grande philosophie des deux derniers siècles est toujours vivante. Ce que je conteste, mais vous ne m'avez pas démontré le contraire.
Alors, est-elle toujours vivante? Moi, je le conteste, parce que je dis, elle est soit embaumée et muséifiée dans des appareils, soit elle est soumise à ce tir que vous et vos amis faites, qui est un tir de barrage, enfin, d'un tir d'attaque, très, très intéressant.
Le tir de la transcendance, quoi, mettons les pieds dans le plat.
Le tir de la transcendance. Alors, est-ce que vraiment on va arriver, avec ce courant de pensée, à ressusciter une question pré-philosophique ou pré-métaphysique, qui serait une incarnation de la transcendance? Et là, nous passons au sujet qui est le renouveau de la spiritualité, point d'interrogation.
Attention, mais je n'ai pas dit cela, si vous voulez. Si vous voulez me détruire,
non.
Prenez-moi comme je suis. Je ne vais pas substituer, je n'ai jamais prétendu substituer à des philosophies passées une philosophie de la transcendance. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de la philosophie de la transcendance. Et je suis terriblement impopulaire auprès des chrétiens molles et veules, c'est-à-dire auprès de la plupart des chrétiens, en disant qu'il n'y a pas. Et qu'en dehors des contre-philosophes que sont Pascal et Kierkegaard, il n'a jamais existé de philosophie chrétienne, c'est-à-dire de philosophie de la transcendance. Je souscris, vous savez que je suis toujours très, vous savez que je suis très mal avec les chrétiens et très bien avec les athées, n'est-ce pas? C'est peut-être ce qui nous rapproche. Quand dans les critiques de Dieu et Dieu, il y a une critique pour, une critique contre dans certains journaux, le chrétien est contre, l'athée est pour. C'est ainsi que, par exemple, qu'est-ce qu'on me reproche? On me reproche d'avoir rappelé que Marx est athée, que Marx est quelqu'un qui veut délivrer l'humanité de Dieu. Et ça, vous y souscrivez, vous êtes tout à fait contre le confusionnisme chrétien actuel.
Je souscris complètement, mais je dis que la question de Dieu, ça n'est pas Marx.
Mais il n'y a pas.
Qui en a fait,
mais
en a fait l'analyse.
Mais il n'y a pas de question de Dieu. Je dis et je répète que je n'ai aucune philosophie de la transcendance. J'ai cru voir, c'est la modestie de mon point de vue de journaliste transcendantal, j'ai cru voir en acte, et j'ai pris acte de cette irruption de transcendance qui a cassé nos êtres pour les régénérer et nos philosophies pour ne pas les régénérer du tout. Voilà ce que j'ai cru voir. Vous comprenez, c'est beaucoup. Finalement, c'est beaucoup plus simple que ça.
Bien.
Alors, vous, qui êtes-vous en face de cela?
Alors,
il ne vous reste plus qu'à être le seul héritier vivant d'une tradition philosophique que vous dites morte et empoussiérée. Mais alors, mon cher, vous êtes un génie philosophique ou Dieu lui-même. Ce qui n'est pas impossible, du moins pour le génie philosophique.
Non, ça n'est pas du tout de
c'est
ça.
C'est pas du tout impossible.
Non. Ça n'est pas du tout ça.
En fait, la question est posée.
Oui. Ça n'est pas du tout ça dont il s'agit. Je répète ma position. À nouveau. C'est que la philosophie existe. Elle va continuer de fonctionner. Nous sommes dans une période où on voit paraître des livres de philosophie faits par de nouveaux jeunes philosophes qui sont en train de réinventer quelque chose au niveau, soi-disant, au niveau de la philosophie. Je veux dire, il y a automatiquement de la philosophie qui fonctionne dans le discours social, soit pour être une philosophie, soit pour devenir une philosophie contraignante, parce que pour faire tenir des gens ensemble, il faut de la philosophie.
Ah, il faut, attention, pour faire, alors si vous en êtes réduit à réduire la philosophie au rôle de faire tenir les gens ensemble, c'est une bien piètre idée que la philosophie, et je vous répète qu'il n'y a pas, et je vous dirai qu'il n'y a pas que la philosophie pour faire tenir des gens ensemble. Il y a plus que la philosophie, l'idéologie, et quelquefois, une foi ou une religion commune.
Bien.
Bon.
Alors, je dis.
Or, moi, j'ai vu le retour, non pas de la religion, mais peut-être de la foi, et en tout cas d'une transcendance, dans une société dont les philosophies s'exténuaient, et je vous l'accorderai peut-être, ne servaient plus guère qu'à faire tenir plus ou moins des gens ensemble, ou entrer dans le circuit et la hiérarchie des pouvoirs. Bon. Mais alors pourquoi se laisser vouloir les ressusciter? Pourquoi, à partir du néant, nous sommes ne pas chercher, et peut-être ne pas chercher avec moi Et avec mes amis, si vous voulez.
Je dis que la philosophie, telle qu'elle est apparue de façon directe et concrète en 68, c'est quelque chose qui se fait dans une certaine créativité. J'ai dit que c'était quelque chose qui remettait en cause nos habitudes de corps mort et de langue morte. Nous sommes toujours des corps morts en train d'employer une langue morte. Quelque chose a commencé à vivre dans le langage de façon concrète et pratique. Et je dis que oui, c'est ça la philosophie du XXe siècle.
D'accord, mais avouez que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi ça n'a pas duré longtemps? Vous me direz parce que ça a été occulté.
Ça a été combattu.
Bon, mais alors
un spectre hante l'Europe, c'est-à-dire ça, c'est ça qui c'est le spectre dont nous parlons. C'est le spectre de Hamlet, si vous voulez. Et c'est pour ça que ça me permet de poser la question aujourd'hui, de savoir est-ce que nous allons aller dans le sens de cette créativité concrète qui a été celle de 68. Est-ce que nous allons aller dans le sens d'une renaissance?
Oui.
Dont la une renaissance, c'est quelque chose...
Est-ce que vous dites renaissance avec R majuscule?
Oui, si vous voulez. Oui, quelque chose de cet ordre. Est-ce que nous sommes dans une... De deux choses, ou bien nous sommes dans une époque qui ne sait pas, sauf par explosion, comment parler et vivre une renaissance, qui sera peut-être aussi fabuleuse, et ça c'est mon espérance, que la sortie... La Renaissance avec un grand R, je pense à Shakespeare, si vous voulez.
Oui.
Pour moi, c'est ça. Renaissance, ça veut dire Shakespeare. Est-ce que nous allons assister à une créativité qui ne sera pas seulement celle du génie, mais une créativité qui sera tout autre, qui sera vécue dans une communauté et dans un espace interhumain tout autre? Est-ce que nous sommes à la veille de cet accouchement, par convulsion?
Oui.
Ou est-ce que nous allons, au contraire, revenir ou rester dans une sorte de Moyen-Âge qui sera le retour des vieux fantômes et pas l'éclosion de ce spectre que tout le monde essaye de conjurer, le retour des vieux fantômes religieux.
Justement, je voulais vous accrocher un petit peu, pas méchamment, sur la Renaissance. Vous attendez une nouvelle Renaissance. Or, je vous opposerai...
Je dis qu'elle est là.
Je vous opposerai...
Elle est là et tout le monde est contre.
Je vous opposerai... Oui, mais faut-il l'appeler Renaissance? Faut-il la référer à la Renaissance avec un grand R?
Pourquoi pas? On n'en parle jamais.
Mais pourquoi pas est un argument un petit peu léger quand même.
Non, je dis on parle.
Que faites-vous par exemple des trois premières lignes de Vers un nouveau Moyen-Âge de Berlioz, qui écrit en 1921 ou 22, nous sommes en train de vivre les derniers jours de la Renaissance proprement dite. Et est-ce que justement n'est-ce pas tout ce mouvement de la Renaissance qu'il faudrait alors faire remonter non plus à deux siècles mais à quatre siècles, c'est-à-dire au fond à l'humanisme? N'est-ce pas ce mouvement de l'humanisme qui est en train de mourir? Et sans être partisan et sans croire tout à fait à un nouveau Moyen-Âge, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait peut-être considérer qu'il y a un retour d'une nouvelle époque, qui est un retour d'une époque qui est celle-là même que la Renaissance a détruite. Il faudrait peut-être reconsidérer le Moyen-Âge. Pour moi, c'est trop facile de dire Moyen-Âge obscurantiste, on ne sait pas. Là, vous êtes un peu trop homme des Lumières.
C'est plus tard. Hein.
Je ne vous dis pas. Je ne suis pas contre Voltaire. Je ne vous dirai pas sur un temps de reproche.
Voltaire n'est déjà plus...
Vous êtes Voltaire. Mais enfin, il y a quand même... Nous sommes portés depuis quatre siècles par un mouvement humaniste, un mouvement des Lumières, et je vais dire deux choses. Un, s'il est vrai que l'homme est un clair-obscur, un mélange de lumière et d'ombre, réduire l'homme à une pure lumière, comme l'a fait l'encyclopédie au XVIIIe siècle, c'est de l'obscurantisme.
Je ne vous ai pas cité l'encyclopédie du XVIIIe siècle, je vous ai cité Shakespeare.
Oui.
Et personne mieux et plus grandement que Shakespeare ne représente la présentation du clair et de l'obscur et de la contradiction. Pour moi, la Renaissance,
Qu'est-ce que c'est que la Renaissance, dont on ne parle pas assez,
j'ai pris l'exemple de Shakespeare, dont on ne parle pas assez, c'est au contraire une époque, non pas de réduction à l'humanisme, au progrès, à la raison.
Ah, nous ne parlons pas de la même chose, alors, précisez.
Alors, je précise, et je dis que ça n'est pas du tout sur une position rationaliste classique que je me place. J'ai parlé de créativité et d'invention pour un monde qui craque de partout et à qui il faut son langage. J'ai dit la chose suivante, c'est que, ou bien nous sommes dans cette ouverture que vous signaliez tout à l'heure.
J'en suis persuadé.
Donc, qui a fracturé le vieil homme, pour employer un langage qui vous est connu, ou le vieux monde,
oui,
en 68, parmi d'autres symptômes, bon, prenons celui-là. Est-ce que nous allons réussir à être de notre temps? Mais notre temps, c'est quelque chose...
Ah, mais attention, être de notre temps. Enfin, et qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire être de son temps? C'est de l'hégélianisme très vulgarisé, ça, voyons.
C'est tout simplement... Ça part du malaise. Ça part du bétonnage dont nous sommes, je crois, l'objet dans la société actuelle.
Oui.
On nous force, en effet, à vivre, à penser et à parler comme au 19e siècle.
Ah, j'en prends acte.
On s'y acharne. Ne comptez pas non plus sur moi pour, dans une société qui m'oblige de façon contraignante tout le temps à vivre, à penser et à parler comme au 19e siècle, ce que je ne fais pas d'ailleurs, ce qui me permet de discuter avec vous.
Oui.
Ne comptez pas non plus sur moi pour, refusant cet avatar, ce blocage, cette espèce de sclérose continuée, une forme de l'agonie continuée, du coma dans lequel on essaye de nous faire vivre, pour tout simplement sauter comme ça jusqu'au premier temps de l'ère chrétienne.
Mais qui vous parle de sauter jusqu'au premier temps? Je vous demande de sauter dans l'inconnu. Je vous demande au besoin de sauter dans l'innommé. Je vous demande pardon si je l'ai trop nommé. Je vous demande pardon si j'ai parlé un peu trop en tant qu'homme révélé par une conversion chrétienne. Mais je vous demande de sauter dans un inconnu qui vient tout fracturer et au regard duquel l'héritage de vos géniales philosophies que vous prétendez reprendre apparaît et apparaîtra comme un fatras. Je vous demande de vous renouveler vous-même. C'est au nom même de cette créativité qui sourd de toutes parts, qu'on rejette en vain dans les marges et qui, selon moi, va ressurgir et probablement par vous plus que par moi, puisque vous êtes plus jeune que moi. Alors soyez ce que vous êtes, plutôt que soyez d'être de votre temps. Vous serez ainsi l'homme de demain, sans vous être jamais préoccupé de savoir si vous êtes l'homme d'aujourd'hui, l'homme de votre temps. Excusez cette suggestion violente.
Mais puisque le sujet de la discussion, c'est renouveau de la spiritualité. Voilà, avec un point d'interrogation. C'est ça le problème.
Ce sujet à bras-le-corps et posez, alors mettons les pieds dans le plat. Est-ce que on assiste effectivement depuis mai 68 à un renouveau de spiritualité? J'aime pas ça du tout parce que ça fait un peu trop renfermé. Passons. Est-ce que je préfère retour de l'esprit? Alors je vous repose la question. Ce renouveau spirituel, ce retour de l'esprit, est-ce bien cela qui est apparu? Oui ou non?
Je dis oui.
Bien.
Et je dis oui de la façon...
Et je vous le rappellerai.
Oui, je dis oui. Puisque je me suis mis d'accord avec vous dans une émission précédente pour dire que cette fonction du sujet comme vérité et liberté est reposée, alors qu'on avait essayé de l'endormir. Maintenant, la discussion porte sur la différence d'interprétation de ce oui. C'est-à-dire, quand je dis renaissance, créativité, être de son temps ou de demain bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va essayer de prendre à bras le corps d'une façon un peu aventuré.
Je vous demande que ça.
Tout ce qui a émergé depuis une dizaine d'années,
oui,
dans cette crise, comme nouveau, oui, comme nouvelle forme de vie, nouvelle forme de pensée, nouvelles habitudes mentales, nouvelles choses, et qu'on va contre tous les appareils qui sont aujourd'hui en complicité, que ce soit le pouvoir ou l'union, oui, de la gauche.
Exact.
Qui sont en complicité parfaite pour essayer de faire taire cela, tout en le tolérant et en le marginalisant, est-ce que nous allons pouvoir le faire crier ou parler ou agir?
Est-ce que nous allons pouvoir l'accoucher? Est-ce que nous allons pouvoir le délivrer? Seulement, alors un problème qui risque de consacrer...
Et je dis pour ça que nous n'avons pas besoin de Dieu.
Mais que nous ayons ou non besoin de Dieu, est-ce... Oui ou non, j'allais dire encore une fois oui ou merde, est-ce oui ou non lui qui revient? Est-ce un infini dans l'homme? Est-ce une transcendance dans l'homme? Une auto-transcendance, un dépassement par l'enfant? Il y a deux choses qui ont pu expliquer mai. Et il semble que les héritiers de mai sont au bord d'un schisme. Il y a ceux pour qui mai a marqué la rupture de la transcendance, de quelque nom qu'on veuille l'appeler. Il ne s'agit pas de rebondir comme vous disiez, au premier siècle de l'ère chrétienne, c'est peut-être eux qui reviennent, et pour subvertir un nouvel empire romain, ce qui ne serait pas si mal entre nous. Mais peu m'importe de le reconnaître, peu m'importe encore une fois les modèles. Mais enfin, donc, besoin ou non de Dieu, est celui qui revient, en quelque sorte, délivrer, libérer l'homme dans le rapport dont j'ai montré, je crois, dans mes bouquins, toute l'intériorité, non pas la dépendance, là, vous m'accorderez ça encore contre les imbéciles chrétiens ou athées, n'est-ce pas? Ou bien est-ce au contraire une libération des corps, il faut bien le dire, une libération des corps dont il me semble que vous êtes plutôt partisan, avec quelques incontestables héritiers de May, comme Deleuze, comme Lyotard, etc., et qui alors pousserait May dans le sens d'une libération absolue du désir, pousserait May dans le sens de cette révolution sexuelle dont vous ne semblez pas vouloir tout à fait, puisque hier encore, vous souscriviez au moins de la tête, quand je citais le mot de Lacan, sur la révolution sexuelle, piège à con. Et alors, moi, qui suis placé, évidemment, du point de vue de Dieu, et j'y peux rien, c'est ma conversion, vous comprenez, j'ai tendance à dire que l'héritage intellectuel et spirituel de May entre nous, en penseurs, si l'on est, ce partage entre, c'est partiel ce que je veux dire, ce partage entre ceux qui interprètent May du côté, tiens, d'un retour de l'être, il s'appelle Dieu ou non, et ceux qui interprètent May du côté d'un laisser-aller ou d'un abandon absolu au néant, c'est-à-dire à la foire du sexe et autres conneries qui ramèneront toutes les autres dominations de ce monde. Et je prétends que c'est du côté de Dieu, du côté de l'esprit, du côté de l'âme, du côté de l'ange, du côté de la transcendance, qu'est le seul fondement, non seulement historique, mais ontologique, par-delà l'histoire et permettant l'histoire, le seul fondement de la révolte. Sans quoi vos révoltes seront toujours baisées d'avance.
Bien, maintenant, admettez-vous, oui ou non, qu'on peut ne pas se laisser enfermer dans l'alternative.
Mais il n'y a que ça, c'est que vous...
Non. Écoutez, laissez parler quelqu'un qui ne se sent pas obligé de choisir entre les deux positions que vous avez.
Alors, dites la vôtre.
Voilà. Je dis que...
Deux minutes, Philippe Salles. Entre
le fait de tomber dans le panneau de la libération pour la libération, et en effet, qui donnerait une sorte de pensée molle, car en effet, on ne peut pas
de
jouer...
De pensée molle ou de nouvelles dominations de type, bref, sadique, finalement.
Entre cette voie-là qui, en effet, s'ouvre, ou son opposé, qui serait ce que vous appelez le retour de l'être, mais où je déchiffre des symptômes assez inquiétants,
qui sont l'angélisme, je suis un incarné total, je suis un chrétien de l'incarnation. Alors, ne me parlez pas de mon angélisme.
Maurice Clavel, il reste une minute pour que...
Je dis que nous ne sommes pas, et là c'est une proposition, je me fous de l'humanisme, mais je dis ce que je pense. Je dis que nous ne sommes pas faits pour nous enfermer dans le tombeau aliénant d'un corps, pas plus que nous ne sommes faits pour nous aliéner dans le refus de ce corps. Et je dis que, aussi bien il est absurde de se laisser piéger dans le panneau des pulsions, pour parler un langage moderne, de penser que la sexualité...
Le panneau des pulsions, vous m'avez accordé des choses importantes, là.
Je dis...
Je vous les rappellerai.
Je dis aussi quelque chose d'important qui devrait quand même vous gêner un peu, et on en discutera, que c'est pas un puritanisme, c'est une sorte, cette affirmation de pureté angélique et de déni de l'existence absolument définitive de l'aspect charnel ou sexuel.
Définitif, et nous sommes mortels, mon cher. Nous sommes pas définitifs.
Eh bien, ce déni de la mort.
À moins que nous ayons un corps spirituel.
Ce déni de la mort, justement. Parce que ça peut tourner à ça, l'angélisme. Oui. Hein. Je dis que là, on n'est pas forcé de tomber d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que je parlais de créativité.
Mais si vous m'opposez votre refus de l'angélisme, vous vous trompez de cible, car je ne suis pas angélique, Soler.
Alors nous reprendrons ça, je crois, demain. Parti pris, série spéciale, Philippe Solers, Maurice Clavel. Demain, je ne sais pas quel thème nous prendrons, parce que je crois qu'il faut continuer cette discussion sur l'angélisme.
Et oui, il faudra parler du corps, il faudra peut-être même parler de l'âme.
Bon, là, on reprendra ça demain. Alors.
Oui.
Je vous rappelle notre adresse, parti pris, pièce 4718A, 4718A, maison de Radio France, 75 790, Paris, Selex 16. Merci d'être avec nous et à demain. Show me the drunkard as he stumbles out the door. And I'll show you a young man with so many reasons.
so tall. And I'll show you a young land with so many reasons why they're but poor fortune, though you and I, you and I.
C'était mémorable. Face à face, Maurice Clavel, Philippe Solers, en 1976, animé par Jacques Pogam.